Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ces deux heures d'infos, d'échanges et de débats. Et ce soir, on vous dira tout sur cette révolution pour lutter contre les vilains pollueurs. Abîmer l'environnement sera désormais passible de peines de prison et d'amendes pouvant dépasser le million d'euros. C'est l'annonce faite par le gouvernement, comme le réclamait la Convention citoyenne pour le climat. D'ailleurs, vous vous souvenez de la promesse du président Macron à l'époque ?
Le temps est venu de faire, d'agir. Et ce temps d'action concrète, c'est celui que votre travail inaugure. Je veux que toutes vos propositions qui sont prêtes soient mises en œuvre au plus vite.
Alors justement, un an après, qu'en restait-il de ces propositions citoyennes? Qui sera concerné par ce nouveau délit de polluer? On posera la question au réalisateur Cyril Dion, qui est l'un des hommes à l'origine de cette convention citoyenne. 19h15, le Club des idées, nos ados en danger. C'est l'alerte lancée aujourd'hui par l'autorité de sécurité sanitaire. Ils passent trop de temps devant les écrans et ne font pas assez de sport, ce qui nuit gravement à leur santé. Et le confinement n'a pas arrangé les choses, on en parlera. Et ce seraient les enfants des familles modestes les plus touchés. Alors quel bon dosage entre loisirs et activités sportives? On en parlera tout à l'heure avec nos invités. D'abord le journal, avec vous Isabelle Millet, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
18h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Chimère, c'est un véhicule qui est à la fois composé d'un véhicule électrique et d'un véhicule thermique, qui essaye de remplir tous les usages, mais qui en réalité n'en remplit aucun.
Les véhicules hybrides rechargeables, pas aussi écolo qu'on pourrait le croire, voire pas écolo du tout. C'est ce que révèle une étude choc sur les émissions de CO2. Dossier complet dès le début de ce journal.
L'ouverture des stations de ski pour les fêtes de fin d'année, l'exécutif n'a pas encore tranché. Plusieurs scénarios sur la table. L'enjeu financier est évidemment énorme.
La réouverture des bars et des restaurants, c'est pas non plus pour tout de suite, en tout cas pas chez nous en France, parce qu'en Espagne, en Catalogne, ça y est, réouverture progressive depuis aujourd'hui, on sera sur place.
À peine ouvert et déjà suspendu, faux départ au procès de Nicolas Sarkozy pour corruption dans l'affaire dite des écoutes.
Le Vendée Globe, les marins entament leur troisième semaine de solitude en mer, encore du changement en tête du classement. La Bourse de Paris a terminé ce soir en légère baisse de 0,07% à 5492 points.
Et puis la météo avec Anissa, bonsoir.
Bonsoir Julien.
Un temps plus nuageux au programme demain.
Oui, avec encore demain matin, pas mal de brumes et de brouillards, parfois même givrants. Dans l'après-midi, le ciel a du mal à se dégager. Le soleil pointera les bouts de ses rayons par quelques endroits, mais ça va être très très neutre. Et puis, il va faire froid, très froid demain. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
À l'heure où l'on demande aux Français de privilégier les véhicules non polluants, à l'heure des primes à la conversion et des primes à la casse, alors que les contrôles techniques sont de plus en plus implacables, alors qu'il faut des vignettes pour circuler en cas de pic de pollution, cette étude choque donc sur les véhicules hybrides rechargeables.
Oui, étude de l'ONG Transport et Environnement qui conclut, Virginie Salmen, que ces voitures polluent bien plus que ce que laissent entendre leurs constructeurs.
Oui, trois modèles parmi les plus vendus en Europe ont été testés en conditions réelles, donc sur route, par un cabinet d'experts britanniques. Le BMW X5, le Volvo XC60 et le Mitsubishi Outlander. Première configuration dans des conditions idéales, c'est-à-dire batterie chargée, route plane, coffre vide, très bonnes conditions météo. Ces voitures ont émis entre 28% et 89% de CO2 de plus qu'annoncé par les constructeurs. Deuxième configuration, plus réaliste, avec un coffre chargé, des accélérateurs, des côtes, une batterie électrique vide. Là, ça monte jusqu'à 8 fois plus d'émissions que sur le papier. Et le record, c'est 12 fois plus quand le moteur thermique se met à recharger la batterie électrique en route. Là, on est presque au niveau d'émissions de CO2 d'une Porsche Cayenne, selon l'étude. Conclusion pour Diane Strauss, directrice France de l'ONG Transport et Environnement. L'hybride rechargeable est une bombe climatique.
C'est une chimère. C'est un véhicule qui est à la fois composé d'un véhicule électrique et d'un véhicule thermique, qui est essaye de remplir tous les usages, mais qui en réalité n'en remplit aucun, puisque la batterie est si faible que ce n'est pas vraiment un véhicule électrique, c'est un faux véhicule électrique, et le véhicule est tellement lourd que ce n'est même plus un véhicule thermique performant. Même un conducteur qui voudrait un usage vertueux de son véhicule hybride rechargeable ne va pas forcément pouvoir l'utiliser comme il l'aimerait et atteindre les seuils d'émissions annoncés.
Alors cette ONG de référence en Europe appelle l'État français, entre autres, à arrêter de subventionner l'hybride rechargeable à hauteur de 40 millions d'euros par an pour la France et à se concentrer sur les véhicules électriques.
Alors vous restez avec nous Virginie parce que vous venez de joindre le porte-parole des constructeurs automobiles, François Roudier. On va l'écouter ensemble. Il se défend. Pour lui, ça n'est pas tant un problème de conception des véhicules hybrides rechargeables, mais plutôt la faute des conducteurs.
Cette étude fait des points dans des situations où on n'a pas à se retrouver un hybride rechargeable. Un hybride rechargeable, déjà, quand on part de chez soi, il doit être chargé. C'est-à-dire que la batterie doit être pleine, donc on ne va pas se retrouver à tourner uniquement sur le thermique avec un hybride rechargeable, ce qui n'a aucun intérêt. C'est plus l'utilisation du véhicule par le conducteur qui est à refaire, qui a reformaté, c'est-à-dire qu'il faut faire des formations d'éco-conduite pour que ce conducteur ne passe pas trop souvent sur le thermique, sur son hybride rechargeable, et qu'il reste sur l'électrique, c'est-à-dire qu'il recharge sa batterie, et puis surtout qu'il ait une accélération modéré et qui ne se croit pas aux 24 heures du Mans. Oui, vous allez vider la batterie si vous roulez à 130 sur l'autoroute, vous allez la vider très vite. Mais ce qui n'est pas du tout l'objectif de ce type de véhicule.
Bah oui, c'est QFD, c'est la faute du conducteur, nous dit François Roudy. Alors Virginie Salmen, vous êtes toujours avec nous, on entend ce que dit le porte-parole des constructeurs automobiles. Il a raison, c'est vraiment la faute des conducteurs si ça pollue les hybrides rechargeables ?
Alors si on se fie aux résultats de l'étude, c'est moins un problème de conduite que de faible puissance de la batterie électrique, notamment dans les accélérations en sortie de ville ou sur autoroute, où il faut bien quand même augmenter la vitesse. Dans ces moments-là, c'est le moteur thermique qui s'enclenche, dit l'étude, parce que la puissance de l'électrique n'arrive plus à suivre. Et dans ce cas-là, on a donc un véhicule très lourd, parce qu'il a deux moteurs et une batterie électrique, donc un véhicule très polluant.
Et on n'a pas fini d'en parler. Merci Virginie Salmen du service Société d'Europe 1, et on posera la question évidemment à Cyril Dion, mon invité à 18h20. Il est l'un des initiateurs de la Convention citoyenne pour le climat.
Dans 24 heures, vous le savez, le président doit fixer le cap. Emmanuel Macron dévoilera demain à 20h les grandes lignes d'un confinement allégé. Les petits commerces notamment attendent de savoir s'ils pourront rouvrir le week-end prochain.
Quant aux stations de sport d'hiver, on l'évoquait dans les titres, la décision de leur ouverture ou non pour Noël sera annoncée dans les 10 prochains jours. Leur représentant était reçu à Matignon aujourd'hui.
Et on rappelle que l'enjeu économique est énorme, hein, Adrien Beck.
Ah oui, c'est l'or blanc, hein, 10 milliards d'euros par an. Sans doute pour cela que le gouvernement se donne un peu de temps. Mais selon nos informations, l'hypothèse la plus probable à ce stade, c'est quand même pas d'ouverture des stations de ski. Il faut voir que les Alpes restent la région où l'activité épidémique est la plus forte et le gouvernement n'a aucune envie de voir un rebond des contaminations sur ces territoires. Alors l'autre hypothèse, c'est une ouverture au moins partielle, peut-être sans bar, sans restaurant. Jean-Luc Bock, le maire de La Plagne, propose lui un protocole sanitaire renforcé.
Le port du masque sur les remontées mécaniques, c'est quelque chose qui sera obligatoire. On va mettre en place des centres de dépistage avec des tests antigéniques. Il vaut mieux un petit peu de contraintes et bénéficier des grands espaces que pas de contraintes du tout et ne pas pouvoir ouvrir nos stations.
Voilà, alors avant de prendre sa décision, le gouvernement espère aussi une coordination européenne sur l'ouverture ou non des stations. On imagine avec nos voisins Italie, Espagne. On voit d'ailleurs qu'en Suisse, certains domaines ont déjà ouvert. Les acteurs de la montagne ont assuré ce matin pouvoir être prêts en 15 jours, d'autant, sourit l'un d'eux, que pour l'instant, le plus gros problème, c'est qu'il n'y a pas de neige.
Dossier à suivre donc, précision signée Adrien Beck.
Et alors qu'en France, on ne sait donc toujours pas quand on pourra de nouveau s'attabler au restaurant ou boire un café au comptoir. En Espagne, dans la région de Catalogne, les bars et les restaurants peuvent de nouveau ouvrir depuis aujourd'hui.
Et on imagine que les Catalans attendaient ça avec impatience. Henri de Laguerie, vous êtes notre correspondant à Barcelone en direct, même s'il s'agit, Henri, d'une reprise très progressive.
Oui, effectivement, car le protocole sanitaire est très strict. En terrasse, il doit y avoir 2 mètres entre chaque table et à l'intérieur, la capacité est réduite à 30%. Et puis, il faut fermer à 21h30 avant le couvre-feu. C'est dur, mais peu importe. Paola Ospina, la patronne du restaurant Les Filles dans le centre-ville, a le sourire.
Très contente, ouais. Que je puisse ouvrir en 30%, c'est terrible, mais au moins je peux ouvrir. On a besoin de travailler pour tout, pour payer les loyers, mais aussi pour la tête, pour être occupé, pour nos clients. On s'est tous, je crois, rendu compte quand tout est fermé, c'est très triste.
Voilà, dans ce restaurant, 5 employés sur 10 ont été réembauchés. Après plus de 5 semaines de fermeture, les clients sont de retour comme Jesús.
Ça fait longtemps que je n'étais pas venu en terrasse. Petit à petit, il faut reprendre une vie normale.
Barcelone retrouve un peu de son activité et de sa vie dans la rue, mais on est loin de l'euphorie du mois de mai dernier. Lors de la première réouverture, un tiers des restaurants sont encore fermés aujourd'hui. Pour beaucoup, ce n'est pas viable de lever le rideau dans ces conditions. Et puis, malgré le soleil, toutes les terrasses n'étaient pas remplies aujourd'hui. Le froid sans doute, mais aussi et surtout la peur de se contaminer qui reste très présente ici à Barcelone.
En tout cas, ça fait longtemps qu'on n'avait plus entendu ces petits tintements de verre derrière vous. Merci Henri de Laguerie en direct de Barcelone. Le groupe alimentaire, agroalimentaire Danone annonce qu'il va supprimer jusqu'à 2000 postes dans ses sièges en France et à l'étranger. Et le motif invoqué, eh bien, c'est la baisse des ventes de bouteilles d'eau engendrées justement par les fermetures des bars et des restaurants.
Un nouveau vaccin, Isabelle, un de plus, sans doute bientôt sur le marché. Cette fois, c'est le laboratoire britannique AstraZeneca, associé à l'université d'Oxford, qui a développé un vaccin efficace à 70% en moyenne, voire à 90% dans certains cas.
Alors c'est vrai que ce sont des résultats pour l'heure moins probants que ceux de ses concurrents, Pfizer, BioNTech ou Moderna, dont l'efficacité dépasse les 90%. Mais cette formule britannique a l'avantage d'utiliser une technologie plus traditionnelle qui rend son futur vaccin moins coûteux et plus facile à stocker puisqu'il n'a pas besoin d'être conservé à très basse température.
Et on verra dans le journal de 19h si la France est prête, évidemment, en vue d'une campagne de vaccination massive.
Europe 1, Julien Bugier.
18h09, vous restez avec nous dans quelques secondes. Le procès de l'affaire des écoutes, dans lequel comparait Nicolas Sarkozy, suspendu jusqu'à jeudi.
Et puis ça tangue en tête du Vendée Globe.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h11, la suite du journal avec Isabelle Millet. Faux départ donc pour le procès de l'affaire dite des écoutes.
Oui, procès dans lequel devait comparaître Nicolas Sarkozy et qui est donc reporté à jeudi, Chloé Triomphe, car l'un des prévenus a peur d'attraper le Covid.
Oui, il s'agit du magistrat impliqué dans cette affaire, Gilbert Azibert, qui est aujourd'hui âgé de 74 ans et qui vit à Bordeaux, mais qui est surtout, comme l'a expliqué son avocat, un sujet à risque s'agissant du coronavirus, avec des faiblesses cardiaques, respiratoires et des problèmes de tension, deux certificats médicaux attestant du caractère déraisonnable de sa comparution pendant 3 semaines en pleine pandémie. Son conseil a donc demandé le renvoi du procès, car si la visioconférence serait une possibilité juridique, d'autant plus avec l'ordonnance prise récemment par le garde des Sceaux, Gilbert Azibert y est bel et bien opposé car il souhaite se défendre des visus devant le tribunal. La visioconférence, c'est pourtant la solution que la représentante du parquet qui représente l'accusation préconise, une solution solide, équitable, a-t-elle expliqué. Alors si aucun des autres avocats ne s'est associé à cette demande de renvoi, tous ont tout de même affirmé leur opposition à la visioconférence. Quant à Nicolas Sarkozy qui était présent tout à l'heure, costume, cravate et masque de rigueur. Il est là, il est prêt à plaider son avocate. La présidente du tribunal s'est donnée jusqu'à jeudi pour réfléchir et a demandé une nouvelle expertise médicale de Gilbert Azibert.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1.
Et puis la justice encore avec le procès des attentats de janvier 2015 qui est lui aussi de nouveau suspendu pour une semaine.
Faute d'accord des avocats sur le recours à la visioconférence pour le principal accusé, ce dernier souffre toujours des symptômes du Covid.
Et c'est décidément une journée très riche d'un point de vue judiciaire. À 19h, on sera à Rennes pour le procès de 7 militaires poursuivis pour homicide involontaire.
8 ans après la mort d'un sous-lieutenant lors d'une soirée d'intégration.
Et puis des nouvelles du Vendée Globe, Isabelle.
Oui, avec une succession d'avaries ces dernières 48 heures. Corinne Boulou qui bouleverse le classement et surtout le trio de tête.
Oui, c'est vrai que ces deux derniers jours ont été riches en rebondissements. Alex Thompson en tête il y a encore 48 heures est relégué désormais en 5e position. Le Gallois a été contraint de lever le pied pour réparer une sérieuse avarie à l'avant de son monocoque Hugo Boss où des fissures dans la structure commençait à apparaître, mais il poursuit sa route. Thompson a donc vu dans un premier temps Thomas Ruyant sur son monocoque Linked Out lui passer devant. Le nordiste, pas épargné non plus par des pépins techniques, il a dû escalader son mât à 30 mètres de hauteur pour réparer une drisse. Et en début de matinée, eh bien Charlie Dalin, en embuscade, a profité d'un meilleur angle de vent pour se glisser aux avant-postes à bord de son monocoque Apivia. Il se réjouissait de sa position au beau milieu de l'Atlantique Sud.
Bon, une nuit un peu plus rapide que ce que je pensais. J'ai eu pas mal de vent cette nuit au final. On a fait des belles pointes de vitesse là. Je pense que ça a permis de pas mal rattraper Thomas.
Et ce soir, au dernier pointage, Charlie Dalin est donc en tête du classement provisoire du Vendée Globe. Il devance d'une 50aine de kilomètres Thomas Ruyant et Jean Le Cam a réintégré le podium, mais à 500 kilomètres des deux premiers.
Et vous continuez à suivre ça. Merci Corinne Boulou.
Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres à 18h30 et le journal de 19h. Anissa qui nous a rejoint pour la météo nous annonce un temps gris demain, Anissa.
Oui, avec beaucoup plus de nuages, notamment à l'ouest demain matin sur la Bretagne et puis en début de journée au nord de la Loire. Le ciel est très couvert comme depuis plusieurs jours, les brouillards sont nombreux et parfois très épais. Sur le Val de Saône, nous aurons même des grisailles tenaces avec des brouillards givrants en début de journée. Donc si vraiment vous êtes obligé de prendre la route demain matin, il va falloir être très prudent, notamment dans le Grand Est. Dans l'après-midi, le ciel reste couvert sur une grande partie du pays. Au bord de la Méditerranée, sur le Roussillon par exemple, les entrées maritimes persistent toute la journée et elles pourront vous apporter quelques gouttes en fin de journée. Des petites gouttes également aussi attendues sur la Bretagne.
Mais petites, hein,
ouais, des petites gouttes, vraiment, sur le Finistère demain en fin de journée. Là où c'est pas petit du tout, c'est sur les températures. Alors couvrez-vous demain matin. On aura moins 4 au Puy-en-Velay, moins 3 à Clermont-Ferrand, moins 2 pour Avignon, Besançon et Lyon, 0 degré à Tours, 2 degrés à Nantes, 3 à Paris, 6 à Lorient et 8 à Brest. Et puis au meilleur de la journée, ça va rester frais sur le Grand Est avec 3 à 7 degrés et 12 à 18 degrés sur l'ensemble du pays. Nous aurons 3 à Strasbourg, 9 à Paris, 14 à Bordeaux et 18, la maximale pour Biarritz.
Ben oui, toujours dans le sud ou le quelque sud-ouest, part au bord de la mer.
Exactement.
Merci Anissa.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe 1, Julien Bugier.
18h16, restez avec nous dans quelques secondes. Emmanuel Macron est-il en train d'enterrer ses promesses faites à la Convention citoyenne sur le climat? On posera la question à Cyril Dion, le réalisateur qui est l'un des instigateurs de cette convention. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, notre invité à 18h18, il est l'un des initiateurs de la Convention citoyenne pour le climat constituée il y a un an. C'était en octobre 2019. Bonsoir Cyril Dion.
Bonsoir.
Merci infiniment d'être en direct avec nous. Alors, simplement, avant de vous entendre sur les annonces gouvernementales pour l'environnement, on va en parler longuement. D'abord, je voudrais votre réaction à ce qu'on a entendu tout à l'heure dans le journal, cette grande enquête d'ONG Transport et Environnement qui nous apprend que les véhicules hybrides rechargeables seraient jusqu'à 8 fois plus polluants que ce qu'affirment les constructeurs. On a entendu ça, la représentante de cette organisation non gouvernementale qui nous dit « Ces véhicules sont une bombe climatique. L'Angleterre vient de décider de les interdire en 2030. Est-ce que vous y êtes favorable ?»
J'ai pas lu cette étude, donc je peux pas présager de ce qu'il y a dedans, mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'on sait par exemple sur l'impact des véhicules électriques, c'est qu'au-delà simplement de brûler du pétrole, toute la fabrication, notamment les minerais, notamment les batteries, a un impact climatique important. Donc dans un véhicule hybride, vous avez les deux. C'est-à-dire qu'il y a tout le dispositif électronique et électrique, plus le dispositif thermique. Donc ça ne paraît
donc
pas
une
être une très bonne idée.
Fausse technologie propre, en réalité.
Ben, oui, mais globalement, sur le problème des voitures, en fait, on a besoin d'aller plus loin que de se dire on remplace toutes les voitures thermiques par les voitures électriques. On a besoin de repenser la mobilité, de se demander comment on se déplace demain. Il y a des études, par exemple, une étude qui a été faite par le vice-président de General Motors, enfin l'ancien vice-président pour l'Université du Michigan, qui montrait qu'on pouvait avoir la même qualité de mobilité dans une grande ville avec 80% de véhicules en moins. Mais on les partage, mais on développe les transports en commun, mais on développe les mobilités douces. C'est repenser l'urbanisme, en fait. Ce n'est pas simplement remplacer les voitures.
Bien, merci pour cette réaction, en tout cas, Cyril Dion. Le gouvernement a donc présenté aujourd'hui à tous les citoyens de la Convention ce nouveau délit d'écocide qui vise donc à punir les atteintes à l'environnement. On en parlera avec des amendes qui peuvent aller jusqu'à plusieurs millions d'euros. C'est l'une des propositions phares de la Convention, à peu de choses près. Et pourtant, ce soir, vous dites que le compte n'y est pas. Le président Macron ne tient pas ses promesses. Pourquoi cette colère, Cyril Dion? Et pourquoi avoir relancé une pétition pour sauver les engagements de la Convention citoyenne pour le climat?
Parce que l'engagement que Emmanuel Macron a pris, qu'il a pris d'abord quand il a lancé la Convention citoyenne, c'est-à-dire en avril 2019, qu'il a réaffirmé au mois de janvier 2020, qu'il a réaffirmé le 29 juin 2020 quand il nous a reçus, c'est de prendre ses propositions sans filtre. Qu'est-ce que ça veut dire sans filtre? Ça veut dire que...
Les trois jokers, il avait dit.
À part les trois jokers.
Donc 146 propositions sur 149.
Ça veut dire que le travail que les 150 citoyens ont fourni, il le prend sans le toucher et il le soumet au vote des députés ou des Français via le référendum. Là, ce qui se passe, c'est que le gouvernement transforme un certain nombre de propositions avant de le soumettre au vote des députés. Évidemment, l'exemple le plus emblématique, c'est le malus sur les véhicules les plus polluants, on parle encore de voitures, où la proposition de la Convention citoyenne, c'était les véhicules de plus de 1400 kg doivent avoir un malus parce qu'ils sont très lourds et ils émettent beaucoup de gaz à effet de serre.
Une taxe de 10 euros par kilogramme sur la vente des véhicules neufs à partir de 1,4 tonnes. Ça, c'est ce que vous proposiez. Et ce que le gouvernement a retenu, c'est sur les voitures de plus de 1,8 tonne. Donc c'est un différentiel qui paraît pas grand-chose, mais qui est en fait très important parce que, je parle sous votre contrôle, les voitures qui font plus de 1,8 tonne, ça représente 1,74% du parc français, quand celle des voitures de plus 1,4 tonne, c'est 26%. Donc évidemment, l'impact n'est pas du tout le même.
Exactement. Là, si on veut, et c'était le but des citoyens, de le faire en plus dans un esprit de justice sociale, si on veut vraiment avoir un impact sur le changement climatique, il ne faut pas faire un malus sur 1,7% des véhicules.
Et c'est pareil pour toutes les propositions?
C'est pareil pour un certain nombre de propositions.
Lui avez parlé, vous, au président de la République? Vous lui avez dit? Vous aviez promis de tenir vos engagements, monsieur le président?
C'est pas exactement comme ça que ça marche, malheureusement. C'est-à-dire que j'ai discuté, effectivement, avec ses conseillers à l'Élysée. On sait très bien quel est le fonctionnement de la démocratie représentative, malheureusement. C'est que tous les lobbies d'intérêt arrivent au moment où les propositions de la Convention citoyenne sont sorties. Il y a à la fois une partie de la haute administration, à la fois une partie des gens de l'industrie automobile, de l'industrie de l'aviation, qui viennent dire « attention, ça, c'est préjudiciable à mon secteur d'activité, on va perdre des emplois ». Et donc, qu'est-ce qui se passe? On essaie de satisfaire un peu tout le monde.
Cyril Dion, dans le contexte actuel, on peut l'entendre aussi, ça a l'impact sur l'emploi. Quand on a un secteur aérien qui est à l'arrêt, une compagnie nationale, Air France, pour ne pas la citer, qui a été aidée avec une enveloppe de 7 milliards, qui va sans doute être recapitalisée demain, avec des dizaines de milliers d'emplois à la clé, est-ce qu'on peut mettre en place une taxe sur ces mêmes compagnies aériennes?
En fait, est-ce que ce n'est pas le meilleur moment pour essayer faire, de réorienter ces secteurs qui sont déjà dans une difficulté énorme? Est-ce que vous pensez vraiment que Air France ou que les constructeurs automobiles, au moment où ils sont florissants, auraient été d'accord avec ces propositions-là? Je ne crois pas. Ça fait en réalité 40 ans qu'on sait pourquoi il y a le changement climatique, les conséquences que ça va avoir et qu'on sait ce qu'il faudrait faire.
Donc vous
et ce n'est jamais le moment.
Ouais, vous vous dites qu'on aurait dû se saisir de cette crise du Covid pour reconstruire un monde différent.
Et moi, je le dis toujours.
Ça passe par l'automobile. Je voudrais simplement vous poser une question sur ce nouveau délit. Pour que chacun comprenne, d'écocide, c'est un peu flou tout de même dans l'esprit, à mon avis, des auditeurs, pour que chacun comprenne qui pourrait demain tomber sous le coup de ce nouveau délit. Ça peut aller jusqu'à un an de prison ferme, j'ai lu le texte, et jusqu'à plusieurs millions d'euros d'amende pour les entreprises ou les particuliers d'ailleurs pollueurs.
On peut dire que c'est une extension du principe pollueur-payeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous polluez massivement l'air, l'eau, les sols, vous pourrez être condamné quand cette loi aura été votée, de façon beaucoup plus sévère, et on sortira de cette espèce de système où parfois ça coûte moins cher de polluer un peu, d'avoir une petite amende, plutôt que de prendre des vraies mesures environnementales.
Donc c'est plutôt à destination des entreprises, pas des particuliers?
C'est plutôt à destination des entreprises, bien que si des particuliers se mettaient à payer, à polluer de façon importante, j'imagine que la loi pourrait aussi les réprimander.
Oui.
Pour autant, ça n'est pas exactement ce que demandait la Convention citoyenne, là encore. C'est-à-dire qu'on est encore dans du moins-disant, même si c'est un vrai progrès et qu'il faut saluer. C'est aussi une mise en conformité du droit européen. C'est-à-dire que l'Europe...
Dans quel état d'esprit sont-ils tous ces citoyens qui ont œuvré pendant des mois pour faire des propositions et qui aujourd'hui se sentent, j'imagine, comme vous, un peu dépossédés de leurs propositions?
Mais déjà, il y a une partie, ils se sont constitués en association, les 150. Il y en a une partie d'entre eux qui passent leur temps à aller défendre leurs mesures et les expliquer, à la fois à des élus, à la fois à des représentants de différents groupes d'intérêts. C'est pas homogène, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont très énervés et très déçus, qui ont l'impression d'être floués. Il y en a qui donnent encore au gouvernement un peu de temps pour présenter le vaste projet de loi, justement, climat, qui doit arriver au début de l'année. Et puis, il y en a qui sont un peu désespérés et qui n'y croient plus du tout.
Bien. Pour terminer, Cyril Dion, il nous reste quelques instants. Je voudrais, si vous me le permettez, vous entendre sur ces déclarations d'Anne Hidalgo qui ont suscité l'émoi au sein des écologistes. Pardon de faire un peu de politique, mais elle a sous-entendu qu'il n'était pas clair sur leur rapport, je cite, à la République, ce qui a provoqué l'émoi et la colère d'un certain nombre d'écologistes qui lui réclament aujourd'hui des excuses. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Les Verts ont du mal à nommer les choses quand on parle de laïcité et d'islamisme. Ou c'est un faux débat?
C'est pas mon sentiment, non. Enfin, j'ai pas l'impression, en tout cas, qu'il y ait un problème à parler de laïcité ou d'islamisme. Cette espèce de procès en islamo-gauchisme en permanence me paraît un peu déplacé. Pour autant... Je pense qu'effectivement, il y a des sujets qu'on a besoin de regarder en face et que l'islamisme, enfin le fascisme sous couvert de religion qui peut amener à tuer des gens, à les décapiter, etc., c'est un vrai problème. Pour autant, il ne faut pas évidemment amalgamer la foi et des fous furieux.
Et Anne Hidalgo, qui avance ses pions pour 2022, c'est une bonne candidate pour incarner les idées que vous défendez?
Moi, je soutenais Anne Hidalgo pour la mairie de Paris. Mon problème, il est que ce que je vois émerger, c'est un camp, en tout cas dans ce que j'appellerais la sociale écologique, qui est à nouveau hyper morcelé. C'est-à-dire que les écologistes et la partie la plus écolo du PS dont fait partie Anne Hidalgo est déjà en train de se déchirer. Jean-Luc Mélenchon est parti tout seul. Ça ne me paraît pas être une stratégie extraordinaire pour 2022.
La guerre de chapelle est à nouveau en marche. Merci Cyril Dion pour ces quelques instants. Merci.
Avec plaisir.
Europe 1, Julien Bugier.
18h27, dans un instant, le rappel des titres et le débat des grandes voix. On parlera d'Angela Merkel, 15 ans de pouvoir et toujours au sommet. Quel est son secret? À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec le rappel des titres d'Isabelle Millet à 18h30.
Et l'issue est en vue en Grande-Bretagne dans le combat contre le coronavirus. C'est ce que dit ce soir Boris Johnson. Il se félicite, il présente cet après-midi aux députés son plan pour sortir du confinement. Il annonce notamment un retour du public dans les stades à partir du 2 décembre, mais uniquement dans les zones les moins touchées par la pandémie. En France, à la veille des annonces d'Emmanuel Macron, beaucoup espèrent la réouverture des pistes de ski pour les vacances de Noël, mais il n'y aura pas de décision avant une dizaine de jours. Le rappel à l'ordre aujourd'hui de la Commission européenne, les journalistes devraient pouvoir faire leur travail librement et en toute sécurité, dit-elle, après le vote par les députés français du texte controversé qui pénalise la diffusion malveillante d'images des forces de l'ordre. L'affaire des écoutes, le procès dans lequel comparaît Nicolas Sarkozy, suspendu jusqu'à jeudi pour des raisons de santé, l'un des trois prévenus, l'ancien magistrat Gilbert Azibert, ne s'est pas rendu à l'audience aujourd'hui. Et puis le procès des attentats de janvier 2015 est lui aussi de nouveau suspendu pour une semaine, faute d'accord des avocats sur le recours à la visioconférence pour le principal accusé qui souffre toujours des symptômes du Covid.
Merci Isabelle, à tout à l'heure 19h pour le journal. Un coup d'œil au temps avec vous Anissa qui nous avait rejoint. Beaucoup de grisailles en début de journée demain.
Oui, les brouillards matinaux sont encore très fréquents demain, surtout au nord de la Loire, donc prudence. Dans l'est, ces brouillards pourront même être givrants. Grande prudence parce qu'il va faire très froid hein, demain matin. Sur le golfe du Lion, là aussi, le ciel est couvert avec des entrées maritimes. Sur la façade atlantique, le soleil fera quelques petites percées, mais dans l'ensemble, le ciel est assez voilé et assez couvert demain. En fin de journée, sur la pointe bretonne et au bord de la Méditerranée, des petites pluies peuvent arriver. Des températures, je vous le disais, elles sont fraîches, même froides. Avec moins 4 à 8 degrés demain matin, nous aurons moins 4 en Haute-Loire, au Puy-en-Velay, et 8 degrés à Cherbourg, sous les nuages.
Merci Anissa, à tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h32, le débat des grandes voix du lundi, avec ce soir à mes côtés Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos. Bonsoir Brice.
Bonsoir Julien.
Olivier Duhamel. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Julien.
Et Charles Villeneuve. Bonsoir Charles.
Bonsoir.
Et pour commencer, le divorce est-il en marche entre Anne Hidalgo et ses alliés écolos? La polémique fait rage, en tout cas après les charges de la maire de Paris, pour qui les Verts ne sont pas clairs dans le rapport à la République. C'est ce qu'a dit Anne Hidalgo, donc suite à l'abstention de certains d'entre eux pour baptiser un lieu de Paris au nom du professeur Samuel Paty. Il se trouve qu'ils ne se sont pas réellement abstenus, selon ces mêmes membres du Conseil de Paris écolo. Fureur, en tout cas, des écolos qui réclament des excuses. Anne Hidalgo, on l'écoute.
Je leur dis, moi j'ai un problème, c'est votre rapport à la République. Il doit être clarifié. Je ne suis pas pour le relativisme culturel. On a eu un certain nombre de crises où on a eu l'occasion de se dire ces choses-là, et encore récemment sur Samuel Paty. Ils ont fait progresser des formations de gauche comme celle d'où je viens et dans laquelle je suis sur les questions de l'écologie. À nous de les faire progresser sur les questions notamment de République.
Voilà pour ce morceau choisi de sa déclaration. C'était à nos confrères de BFM. Alors comment faut-il interpréter cette sortie de la maire de Paris? Est-ce que c'est une déclaration d'humeur ou ça fait partie d'une stratégie, Charles?
Moi, je pense que ça fait partie d'une stratégie. Elle l'a assez démontré. Elle le campe maintenant, si vous voulez, puisque les municipales sont derrière elle, qu'elle a quand même brillamment remporté, en tacticienne qu'elle est, assez fine. Et si elle l'utilise, cette stratégie aujourd'hui, sur les valeurs républicaines, sur la laïcité, de manière à se tourner vers un électorat populaire qui a été délaissé en partie par le Parti socialiste.
Oui.
C'est pour des raisons très précises. Je trouve qu'elle suit la stratégie de François Mitterrand, c'est-à-dire l'union d'accord, mais l'union c'est un combat aussi.
Alors on reviendra sur le fond. Est-ce que les Verts sont ambigus sur la question de la laïcité et de la République? Peut-être d'abord un mot, Brice Teinturier, sur la forme. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est une stratégie de la part de la maire de Paris?
Ce qui se joue, c'est quand même le rapport de force interne à ce bloc de gauche écologiste. Au plan national, le PS n'est plus dominant. À Paris, c'est bien Anne Hidalgo qui a dominé les écologistes. Et là, dans une perspective potentiellement, on verra bien, mais potentiellement présidentielle, où elle serait une candidate socialiste et écologiste, il faut qu'elle affirme une ligne claire qui lui donne le leadership. Et cette ligne, c'est la ligne républicaine. Et du coup, dire oui, même si l'incident en lui-même est plus sujet à caution, mais qu'il y a chez les écologistes des ambiguïtés et que c'est à eux de se rallier à la ligne sans ambiguïté républicaine et laïque qu'elle incarne, elle, c'est une façon d'instaurer un rapport de force et c'est une façon de maintenir le leadership sur ce bloc-là, cette partie.
Mais elle va avoir du mal à se fâcher avec eux quand même, parce que le Conseil de Paris, c'est 163 sièges, 96 pour la majorité, dont 24, si j'ai bien compté, 24 membres écolos. Peut-être un mot, Olivier Duhamel, sur la stratégie, et puis aussi sur le fond. Ils sont attaquables, les Verts, sur la question de la laïcité et de la République ?
Bon, sur la stratégie, j'écoute Charles Villeneuve, j'écoute Brice avec beaucoup d'attention. Je ne suis pas encore convaincu, parce que je pense que si elle voulait avoir une petite chance d'être la candidate unique à gauche hors Mélenchon, elle les ruine un peu plus en attaquant aussi dur, parce que c'est quand même une attaque extrêmement dure contre les écolos. Donc que ce soit un calcul stratégique, je ne suis pas convaincu. Je pense que c'est plus une conviction. Sur le fond, bon, il y a beaucoup de choses où il faudrait les regarder. C'est compliqué. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écologistes qui n'ont aucun problème avec la République. Et puis, ça dépend de ce qu'on appelle la République. Si, par exemple, pour prendre des choses les plus récentes, si vous mettez dans la République, et je pense qu'il faut le mettre, le principe d'égalité, et dans le fond, l'héritage des Lumières. Bon, quand vous avez une élue écolo qui publie un livre dans lequel elle explique qu'il faut se sortir les hommes de sa culture mentale, qu'elle ne lira plus Shakespeare et qu'elle n'écoutera plus Bach, bah, c'est pas exactement l'héritage des Lumières et c'est pas exactement le principe d'égalité. C'est une inversion au nom de l'inégalité homme-femme par l'élimination des hommes. C'est la misandrie poussée à son point extrême, au moins dans le domaine culturel. Donc là, en effet, il y a probablement des progrès à faire.
Alice Coffin, pour ne pas la citer. Charles Villeneuve.
Non, mais moi, je crois que, je le répète, l'union est un combat et c'est pas vrai seulement en matière politique. Bon. Et on ne se prosterne pas devant un partenaire, même quand il semble plus fort et même quand il a le vent en poupe. Et je crois qu'elle suit cet exemple-là. C'est pour ça que je rappelle évidemment de ce qu'avait fait François Mitterrand avec le Parti communiste. Et c'est à peu près, elle calque son affaire parce qu'elle a bien montré...
Vous savez qui disait « l'union est un combat », Charles Villeneuve ? C'était Étienne Fajon du Parti communiste français qui, contre Mitterrand, disait que le PC n'était pas celui qui était en train de se faire avoir.
Mitterrand l'avait pris au mot. Et avait fini par gagner. Moi, je pense qu'elle est dans cette perspective-là. Ouais. Et elle a montré quand même que c'était une excellente tacticienne, qu'elle était astucieuse de la manière dont elle a. Et moi, je sais par des amis du Conseil consultatif des Arméniens de France, quand est née elle a émis devant eux. Pour ne pas les citer, le fait qu'elle pensait à la présidentielle.
Oui.
Et que c'est dans ce cadre-là, justement, qu'elle vient de faire ce qu'elle vient de faire.
On va en parler de ses chances pour 2022, parce qu'elle l'a dit clairement hier aussi à nos confrères de BFM. Elle a dit « je jouerai mon rôle, je prendrai ma part en vue de 2022 ». Mais est-ce qu'on est là, Brice Teinturier, quand même, face à ce que Manuel Valls avait théorisé dans les deux gauches irréconciliables ?
C'est ce débat qui revient à chaque fois. Est-ce qu'il y a deux gauches irréconciliables ou pas ? Elles ont su, dans le passé, malgré tout, se concilier à certains moments de l'histoire et du coup gagner. Mais il y a incontestablement deux sensibilités de gauche qui diffèrent. Et il y a sur ces questions de laïcité, sur ces questions de droit à la différence ou au différentialisme versus, au contraire, l'affirmation d'une application, j'ai envie de dire, stricte de la République, il y a quand même des différences.
Mais on a plutôt le sentiment que c'est plutôt du côté de la France insoumise, plutôt que chez les écolos.
C'est du côté de la France insoumise, mais c'est du côté d'une partie des écologistes
aussi.
Qui est tiraillée entre des positions qui se rapprochent de la France insoumise. Et maintenant, un peu des socialistes.
Ça divise tout.
Je crois que ce que fait Anne Hidalgo, c'est affirmer tout simplement de manière très claire un positionnement. C'est ce qu'elle a fait aussi à Paris.
Alors, on parlera de ses chances pour 2022, justement. Est-ce qu'elle est en train de prendre le virage pour rassembler la gauche en vue d'une candidature unique ? Peut-elle le faire ? Peut-elle y parvenir ? On en parle juste après la pause. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec la suite à 18h40 du débat des grandes voix du lundi, avec ce soir Charles Villeneuve, Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos, et le grand sage Olivier Duhamel, avec Charles Villeneuve évidemment. On parlait des écolos. Les écolos ont-ils un problème avec la laïcité, avec la République ? Alors avant de vous entendre sur les chances d'Anne Hidalgo de rassembler cette gauche en vue de 2022, simplement j'ai retrouvé les exemples de positions un peu divergentes chez Europe Écologie Les Verts. On se souvient par exemple, le groupe Écolo de Paris avait déposé en novembre 2018 une proposition visant à faire adopter des créneaux non mixtes dans les installations sportives de la capitale. On se souvient également qu'en novembre 2019, les principaux responsables écolos ont tous signé la tribune appelant à une marche contre l'islamophobie, avec certaines associations qui aujourd'hui font débat et seront sans doute dissoutes. Mais à l'inverse, Julien Bayou a soutenu Mila, par exemple, alors que beaucoup de responsables politiques à l'époque n'ont pas dit « je suis Mila », il l'a soutenu sans aucune ambiguïté. L'attachement, avait-il dit, à la laïcité, au droit au blasphème, à la liberté d'expression et à la liberté de conscience. Donc on voit bien que c'est vrai qu'il y a une ligne de fracture au sein des écolos.
Oui, qu'il y a un clivage au sein des écologistes, mais pas seulement, au sein du Parti Socialiste aussi. Les positions de Manuel Valls, qui était clairement sur une affirmation très stricte de laïcité, étaient loin de faire l'unanimité. Donc c'est une ligne de partage qui fonctionne à l'intérieur de toutes les familles politiques de la gauche, de celle de la France insoumise jusqu'aux socialistes, et elle est vraie également chez les écologistes.
Olivier,
et c'est une ligne de partage en plus qui est exacerbée, qui est parfois même hystérisée. Il y a la violence avec laquelle les gens s'attaquent les uns les autres. Par exemple, vous avez deux expressions phares pour chaque camp, pour dénigrer l'autre. Hein, il y a le camp qui dénigre l'autre en disant « vous êtes des islamophobes », et l'autre répond « vous êtes des islamo-gauchistes ».
Oui.
Et paf, ces deux qualificatifs sont jetés à la figure les uns des autres. Alors, ce serait quand même pas très très compliqué de dire qu'on est à la fois totalement contre l'islamisme radical et totalement contre le racisme anti-musulman. Que la gauche soit... La capacité de la gauche, aidée par des intellectuels, il faut bien le dire, à se déchirer avec une violence inouïe, au lieu de s'accorder sur des principes simples, est quand même juste stupéfiante.
Alors Anne Hidalgo, 2022, c'est vrai que pendant les quelques secondes de pause, vous évoquiez les uns et les autres, et c'est assez juste le fait qu'elle a été victime d'un bashing assez fort pendant la campagne des municipales, et qu'aujourd'hui, elle devient un peu la madone qui peut réenchanter l'espérance de gauche, Charles Villeneuve. C'est une sacrée victoire pour elle tout de même.
Non mais sur le plan strictement conjecturel, il y a quand même deux candidats déjà potentiels. Arnaud Montebourg, Parti Socialiste, et Jean-Luc Mélenchon, France Insoumise. Et ce qu'elle vient de faire là, si vous voulez, a une double signification. D'abord par rapport à cette alliance qu'elle va cultiver, qu'elle va adoucir, qu'elle va renforcer. Elle ne va pas de toute façon jeter, si vous voulez, à la mer comme ça, tout le travail préalable qu'elle a fait avant les municipales, après les municipales et jusqu'à aujourd'hui. Et puis, il y a aussi un positionnement de leadership par rapport à tous ces candidats. Elle sait très bien dans quel état est le Parti Socialiste. Et parce que moi, je trouve, personnellement, je ne sais pas si Brice Teinturier ou Olivier sont d'accord avec ça, mais ça fait un certain temps déjà que le Parti Socialiste a abandonné, en tout cas délaissé, peut-être abandonné, c'est trop fort, mais délaissé ce qu'est sa matière première, c'est-à-dire l'électorat populaire.
Oui.
Et elle ne l'a jamais délaissée. Oui. Elle a cette constance pour elle. Oui. Elle a ce pactole pour elle. Et maintenant, elle sait très bien qu'il faut rassembler tout ça. Et cette prise de position, c'est dans cet ordre d'idées.
Alors, je prendrai ma part à la présidentielle, a dit Anne Hidalgo. C'est vrai que, pour rebondir sur ce que disait Charles Villeneuve, Brice Teinturier, elle a un socle très fort d'adhésion, notamment à Paris, mais les classes populaires sont peut-être un peu plus faibles à Paris qu'ailleurs en France. Comment est-elle perçue dans l'opinion publique, Anne Hidalgo ?
Eh bien, en France, d'abord, il y a effectivement un peu moins d'employés ou d'ouvriers qui portent un jugement favorable sur elle, mais ce n'est pas parce qu'ils porteraient un jugement défavorable, contrairement à ce qu'on dit souvent, c'est plus parce qu'ils ne la connaissent pas ou moins. C'est plus des taux de NSP, de je ne sais pas, qui sont plus élevés. Non, je crois qu'elle coche aujourd'hui beaucoup de cases en vue d'une possible candidature à la présidentielle. Et elle avait initié, il y a quelques semaines déjà, dans Le Point, une interview qui était assez déjà évocatrice, au moins qu'elle y songeait. Première case, elle est maire de Paris. Elle a été réélue et brillamment réélue. Alors, ça ne suffit pas, on se pose la question de la province, mais enfin, c'est quand même un actif important.
C'est pas un handicap.
Non, je ne pense pas que ce soit un handicap. N'oublions pas quand même qu'il y a eu quelques précédents glorieux.
La personne était trois quarts corésien.
C'est la question du double racinement.
Oui, mais le premier quart était parisien, mais il était né à Paris.
Non, je ne pense pas que ça soit, même s'il y a un antagonisme, la province contre Paris, etc. Mais dans les enquêtes, en tous les cas, on ne voit pas un abîme aujourd'hui où il y aurait la province anti-Hidalgo et les Parisiens pro-Hidalgo. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un sujet potentiellement, mais être maire de Paris, ça permet d'avoir de l'expérience, de la compétence et d'affirmer un certain nombre de choses. Elle est de gauche et on en a parlé authentiquement de gauche.
Oui.
Elle a pris très tôt, on le lui reprochait, le virage écologiste. Aujourd'hui, c'est quand même plutôt un atout. Elle n'a pas été, durant le quinquennat de François Hollande, et c'est une grande chance pour un candidat de gauche aujourd'hui, associé à ce quinquennat.
Et puis, enfin, c'est une femme. Voilà. Et ça, ça peut peut-être aussi, le moment venu, jouer en sa faveur. Donc, ça fait beaucoup de cases.
Le problème, c'est est-ce que les écolos vont lui laisser l'espace ? Parce qu'ils comptent bien présenter un candidat, eux.
Non, mais les écolos savent très bien, notamment dans le cadre d'une élection présidentielle, qu'il faut aller derrière un champion, si vous voulez, qui a des chances de décrocher le titre. Et elle en fait potentiellement partie. Les écologistes, jusqu'à présent, dans le cadre de l'élection présidentielle, n'ont jamais fait des scores extravagants. Oui. Peut-être que c'est du passé.
Sauf que si elle a réussi à être élue à Paris, c'est aussi grâce au vote écolo. Elle avait
travaillé ça sur le fond. Pistes cyclables, ouverture des berges, surface roulante rétrécie, alternance de la circulation. Elle avait fait un travail de fond pendant des années là-dessus, elle avait préparé. Oui. Comment voulez-vous que, même dans les arrondissements les plus inaccessibles comme le 16e ou le 8e, elle a eu une participation à un vote, les NSP se sont prononcés et ne se prononcent pas. Et ça a été quand même un atout pour son élection. Et elle a fait quand même un écart avec sa principale concurrente, ses principales concurrentes, très nette.
Oui, oui.
Il n'y a pas de discussion.
NSP pour les néophytes, ça veut dire ne se prononce pas pour les sondeurs. Olivier Duhamel.
Non, je pense que Charles Villeneuve a une vision très, très, très optimiste, pour ne pas dire idyllique, des écolos. Et d'ailleurs, des partis politiques
pas dit
en général.
Non, vous voulez dire de Anne Hidalgo.
Non,
peut-être.
Non, je ne suis pas idyllique. Vous l'avez sur un point, quand vous avez dit, laisser entendre qu'il pourrait se regrouper derrière elle à la présidentielle. Oui. C'est ça, où je pense que vous êtes... Je, loin de moi de faire de vous un écologiste, je sais bien que ça vous ferait sauter sur votre chaise.
Je disais juste que dans
cet aspect-là des choses...
Même le général De Villiers est écolo, d'après ce que j'ai vu.
Tout le monde est écolo aujourd'hui. Non, mais vous avez une vision très idyllique. Je pense que les écolos
ont gagné leur combat.
Idéalement, pour parvenir au pouvoir et participer au pouvoir, ils devraient y faire en 2022... ce qu'ils ont fait en 2017. Et en 2017, à l'inverse, ils auraient dû avoir une candidature propre. Mais ils ont fait les choses à l'envers. Ils n'ont pas eu de candidat en 2017. Ils ont rallié un candidat qui a fait combien ? 6%. Et depuis, ils ont progressé à chaque élection. Et maintenant, vous allez voir, il y aura un candidat écolo, au moins un, à la présidentielle.
Oui. Et dans quelques secondes, les amis, on va parler de quelqu'un qui a une cote de popularité que beaucoup aimeraient avoir, peut-être Anne Hidalgo aimerait l'avoir, 74% d'opinion favorable. C'est Angela Merkel. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec la suite du débat des grandes voix du lundi, Charles Villeneuve ce soir, Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos, et Olivier Duhamel. Et je voudrais qu'on évoque maintenant le cas d'Angela Merkel. Pourquoi ? Eh bien car elle a fêté hier ses 15 ans au pouvoir. Vous avez bien entendu, déjà 15 ans, et sa cote de popularité est de, tenez-vous bien, de 74% d'opinion favorable. Et les Allemands, paraît-il, ont déjà la nostalgie Merkel, car elle ne devrait pas se représenter l'année prochaine, en 2021, pour les élections. Elle est aujourd'hui plus populaire que lors de son arrivée au pouvoir en 2005. Elle se définit d'ailleurs elle-même comme ceci. Parfois, je suis libérale, parfois conservatrice, parfois social-chrétienne. Et c'est ce qui fait la CDU son parti. C'est ce pragmatisme qui fait son succès, Brice Teinturier.
Oui, en partie, parce que c'est un positionnement politique. En réalité, avec des coalitions, n'oublions jamais que ce sont toujours des coalitions, elle arrive à occuper ce bloc, on va dire, de centre-droit et à en être la figure dominante et à faire passer un certain nombre de lois sous la pression des sociodémocrates. Mais c'est elle qui en retire le bénéfice sur l'immigration, sur la retraite, sur le mariage pour tous, sur le salaire minimum, qui du coup lui donne aussi de la sympathie qui déborde stricto sensu, c'est pour ça qu'elle a une telle popularité, stricto sensu, sa famille politique. Donc c'est d'abord son positionnement assez large et sa capacité aussi, je ne veux pas dire à géométrie variable, mais sa plasticité, on va dire, sur certains sujets, qui lui donne cette assise plus large. Après, il y a l'image, elle a quand même l'image de quelqu'un qui a de l'expérience, de la solidité, qui synthétise aussi les deux Allemagnes, de sagesse qui joue. Et puis la faiblesse de ses opposants, qu'elle a bien contribué à assécher aussi, aussi bien au plan interne.
74% d'opinion favorable après 15 ans, c'est un truc de dingue quand même.
Oui, oui. Et ça c'est les Allemands. Hein. Faut pas oublier ce qu'est le pays allemand aujourd'hui. C'est un pays de vieux, c'est quand même avec le Japon le pays le plus vieux de la planète. Bon, et puis c'est une sorte de cambrioleuse, si vous voulez, d'idées, parce que Brice Teinturier tout à l'heure n'osait pas... employer l'expression de géométrie variable, c'est justement une politicienne, une tacticienne hors pair. mais pas pour l'Europe, oui, à mon sens, si vous voulez. Moi, je suis français, je vois les intérêts français et les intérêts de l'Europe du Sud. Elle a coupé l'Europe quasiment en deux. Je discutais dernièrement avec un très grand chef d'entreprise espagnol qui préside le Real de Madrid et qui emploie 170 000 salariés en Espagne. C'est un ingénieur des travaux publics, etc. Et lui se plaignait justement de l'hégémonie de la distribution des marchés allemands.
Oui.
Alors, bon, Charles Villeneuve est vraiment dur parce que les dernières choses qu'elle a faites, c'est d'accepter avec Macron de présenter un plan de relance de 500 oui, milliards qui va profiter essentiellement.
Vous avez cité
à
la seule chose
sud
qu'elle a pu faire, oui, c'est justement le seul en mai dernier,
c'est
parce que
rien,
le plan
Charles
de relance, circonstance, oblige. C'est... Et il ne faut pas oublier
mais
non plus...
Mais c'était contre toute l'orthodoxie
oui,
allemande.
Olivier,
vous
ne
pouvez pas négliger
non,
ça, Charles.
Olivier, non, je n'ai pas négligé. Mais comme je n'avais
pas
fini...
Pas mentionné.
Comme,
oui.
Non, je ne l'ai pas mentionné. Il est là, d'ailleurs, écrit sur mon papier, mais je ne l'avais pas mentionné. Mais parce que j'étais dans une perspective et j'attendais évidemment que vous me relanciez
non,
sur
c'est
ce
vrai,
qu'elle avait fait.
C'est vrai qu'elle
mais l'Europe n'a pas été construite. Elle a connu 4 présidents de la République française. Elle n'a rien fait avec aucun de ses présidents.
Elle
avec elle, c'est nada.
Mais elle ne gouverne pas non, la France attendez. Non plus. Elle gouverne
non, mais attends.
D'abord,
par rapport à ce qu'a dit Brice, il y a quand même un bémol. Tout ce qu'il a dit est juste, à un mot près, c'est qu'il a dit centre-droit. En vérité, par rapport à son parti, il faudrait presque dire centre-gauche. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui a dit c'est la meilleure SPD qu'on ait jamais connue.
Oui.
Parce que quand même, si vous
c'est
prenez,
vrai,
si on récapitule ce qu'il a dit très vite, 1 million de réfugiés, le mariage pour tous, même si elle était contre, le salaire minimum.
C'est grâce au SPD.
La fin du nucléaire.
Et je n'ai pas dit, voilà, l'abandon du nucléaire. C'est...
Donc, ça, et, mais y a, après, il y a un facteur culturel où là, je rejoins totalement Charles Villeneuve quand on dit les Allemands. Vous savez, les Allemands, ils parlent de « die Kanzlerdemokratie ». La démocratie du chancelier. Et Adenauer, il a gouverné pendant 4 mandats. Et Kohl, il a gouverné pendant 4 mandats. Et en France,
Adenauer, 14 ans. Kohl, 15 ans. Helmut Schmidt, 8 ans.
Et elle, ne pas 16.
Qui a été victime de son chef de cabinet.
Mais jamais, jamais, des choses comme ça sont concevables en France. Le record, c'est Mitterrand. Mais Mitterrand, parce qu'il y a eu de la cohabitation et qu'il a gouverné avec la droite. Donc c'est dans la culture allemande aussi.
On
mais
dit
dans
aussi la culture allemande, parce qu'on parle
c'est de c'est vrai, la longévité, c'est la durée de tous les chanceliers, ouais, quasiment à l'exception d'un seul.
C'est impensable chez nous où on fait l'alternance à chaque coup, alors quand c'est... Et chez eux, c'est l'inverse.
Mais moi, je ne dirais pas géométrie variable, ce qui sous-tend qu'il y a une absence de cohérence, je dirais, c'est la capacité du système allemand et des chanceliers allemands à faire des compromis et à faire des alliances. Ce sont des coalitions qui les amènent, du coup, sur un certain nombre de points, à... réellement faire des compromis. Et c'est ça qui lui permet d'occuper un espace plus large que le strict espace de la droite.
Et on dit aussi qu'elle a été très marquée, je fais un peu de psychologie parce que je l'ai lu dans une très belle biographie qui a été écrite sur elle, mais qu'elle a été très marquée par son passé aussi. Elle a quand même vécu dans le bloc de l'Est. Et que l'accueil, par exemple, des réfugiés, c'est aussi ce souvenir-là. Souvenez-vous, contre toute attente, alors que personne n'en voulait, et contre d'ailleurs l'avis de son gouvernement et de l'opinion publique, elle a dit « je vais accueillir, moi, en Allemagne, au plus fort de la crise des migrants, 1 million de migrants ».
Ça lui avait oui, dans une bonne partie, dont une bonne partie syriens, afghans, tchétchènes ne sont plus en Allemagne à l'heure actuelle. À peu près 30% ont quitté l'Allemagne parce qu'ils n'arrivaient pas à s'adapter au marché du travail allemand et se sont répartis dans les pays justement du Sud. Alors vous disiez tout à l'heure qu'elle est l'aînée et qu'elle a été élevée à l'Est, évidemment, à l'époque de l'Allemagne communiste. Mais aujourd'hui, elle a réorienté l'Allemagne, d'ailleurs, vers tous les marchés de l'Est. Que ce soit, si vous voulez, vous allez en Pologne, vous allez en Tchéquie, à Prague, etc. À 80%, de toute façon, on vous sert en allemand, on vous parle en allemand, vous avez des voitures allemandes, etc. Moi, je connais relativement bien l'Est de la France, et notamment les Balkans. Eh bien, les Balkans ont été récupérés complètement par les Allemands. C'est vrai des Slovènes, c'est vrai des Slovaques, c'est vrai de la Tchéquie, c'est vrai de la Pologne, c'est vrai de la Hongrie même, etc., etc.
Bon, Angela Merkel pourrait donner quelques conseils à nos politiques pour en tout cas être aussi populaire qu'elle.
En tous les cas, elle fait certainement fantasmer sur sa longévité, les secrets de sa longévité, mais qui doivent beaucoup, encore une fois, au système allemand et à ce jeu de coalition.
Et on verra la suite l'année prochaine. On aura un nouveau ou une nouvelle chancelière. Merci à tous les trois.
Europe 1, Julien Bugier.